Emmanuel Pilon, vous avez dirigé les cuisines pour ce premier repas dans le cadre du Festival des Étoilés, donc en collaboration avec la chef britannique Claire Smith. Comment vous avez abordé cet exercice?
Déjà avec enthousiasme, parce que Claire, elle a une très belle cuisine que j'apprécie, que je suis un peu. Et voilà, c'était sympa de découvrir les deux univers, de mêler ces deux univers dans un seul et même menu, et de faire découvrir ça à Monaco, c'est top. Elle vient pas souvent en France. Et après c'est important, c'est des choses qu'on faisait souvent à Paris, etc. Voilà, de faire venir des chefs étrangers, d'échanger, de faire découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de cuisiner. C'est top de faire ça. D'arriver à jumeler deux types de cuisine, deux identités en fait vraiment différentes, et d'arriver à en faire un seul et unique menu. Et puis c'est surtout en fait du partage, des rencontres, et créer du plaisir et donner du plaisir et rendre accessible en fait ces différents univers où on est obligé de se déplacer. Là, c'est eux qui se déplacent.
On peut dire que Monaco a une place un peu privilégiée pour organiser ce genre de choses et faire en sorte que ça fonctionne.
Toujours, après, quand on parle de Monaco, voilà, ça donne toujours des étoiles dans les yeux à tout le monde. Ça a toujours été, avec le Louis XV, une place forte de la gastronomie. Et puis, avec ce qui est en train de se passer sur Monaco actuellement, ça bouge, voilà, il y a beaucoup de restaurants, c'est ça devient une place forte de la gastronomie, j'ai envie de dire. Avec les deux étoiles de Marcel Ravin, le Pavillon, et ça va encore continuer de grandir. Donc c'est bien qu'il se passe plein de choses, ça crée toute une atmosphère qui est top.
C'est quoi votre philosophie dans votre métier et dans le cadre de ces fonctions que vous venez de prendre au Louis XV?
Prendre du plaisir à en donner. Ma philosophie, c'est dans l'idée que ce qu'on a envie de faire ici, c'est d'amener une évolution tout en gardant cette identité du Louis XV, et d'amener une nouvelle évolution voilà, sur une cuisine bien sourcée, plus végétale, amener des nouveaux goûts dans le travail des associations, dans le travail des techniques de cuisson, de taillage, etc. Mais tout en gardant cette âme et cette identité qui est propre au Louis XV, quoi.
Qu'est-ce qui vous amuse, entre guillemets, quand vous êtes en cuisine, c'est de prendre un produit et essayer d'en tirer le meilleur ou de le travailler de façon insolite? C'est là-dedans vraiment qu'il y a l'essence du plaisir que vous avez à exercer?
Déjà, c'est d'un produit, on va dire, qui est pas noble, ou qu'on se dit, ouais, ça, on peut pas le travailler, ou c'est pas beau, je vais avoir un enfer. Bah, moi, c'est justement, c'est de me dire, bah tiens, personne va avoir un enfer, bah, moi, je vais en faire quelque chose. Par exemple, le concombre de mer, c'est quelque chose qui est assez atypique. Quand on le voit, on dit, ouais, c'est pas beau, c'est pas appétissant. Et voilà, c'est le rendre noble, en fait, de par la façon dont on va le travailler. Mais c'est valable avec tous les produits, il y a n'importe quel légume. La poire de terre, je pense que pas grand monde connaît. Ça, la texture de la poire et un peu le goût de la pomme de terre. C'est assez marrant. Et ça pousse dans la terre. Voilà, enfin, il y a plein de produits comme ça un peu atypiques qu'on découvre en discutant avec les producteurs qui sont autour de nous, les paysans. Enfin, voilà, il y a plein de richesses de terroir autour.
Vous nous avez proposé un produit connu, la tomate par exemple, mais que vous avez vraiment travaillé de manière inattendue, puisque vous l'avez déshydraté, réhydraté, à la fin on avait quelque chose de très confit, très savoureux. C'est pas un produit rare pour le coup, au contraire très connu, mais du coup c'est aussi surprenant.
Bah après, la tomate, oui, on la connaît en confit, on la connaît en cru, en salade, on la connaît en coulis. Et voilà, l'idée, c'est quand je suis arrivé et que voilà, on voit ces belles tomates entières, se dire, bah, on va la laisser entière en fait. Pourquoi la couper? Pourquoi la... Donc voilà, je l'ai mise entière au four. Et après, c'est pareil, ça vient d'essais en fait qu'on fait aux longueurs de journée. On fait plein d'essais. Alors 90%, ça marche pas, mais c'est pas grave, ça reste dans un coin de la tête et peut-être que ça servira plus tard. Et là, voilà, la tomate, on l'a dit, allez, on la claque au four, comme ça, on laisse, on voit. Et au fur et à mesure de la cuisson, en fait, on a vu que le sucre de la tomate ressortait comme une tomate confite, mais elle est, on va dire, mi-confite entière. Donc à l'intérieur, elle reste, il n'y a plus d'eau si vous voulez, mais elle reste légèrement juteuse. Le sucre a donné un petit côté sirupeux sur la tomate. Enfin, c'est voilà, les plus gourmandes. L'idée, c'est voilà, pourquoi la toucher? Il faut la garder entière, quoi. Il n'y a rien à faire.
Sur les produits, on a eu le droit à l'huile d'olive de la Trinité, à des framboises de l'arrière-pays. Vous avez un garde-manger satisfaisant depuis que vous êtes arrivé dans la région?
Ouais, je pense qu'ici, on est pas mal lotis. Il y a de quoi faire entre la frontière italienne, l'arrière-pays niçois, il y a la mer. On a de la chance d'avoir plusieurs panoramas, des montagnes, de la vallée, la mer, de la plaine. Il y a tout, en fait. Donc on peut trouver de tout, tout le temps. Il n'y a pas besoin de chercher loin, et puis ça sert à rien d'aller loin. En fait, il faut se nourrir de ce qu'on a autour de soi. Moi, je suis avide de nouveautés et de produits bizarres.
On est quand même confronté à des événements écologiques très importants, notamment la sécheresse dans la région. Il y a des problèmes qui se posent pour l'agriculture. Est-ce que cette préoccupation, elle arrive jusqu'aux cuisines, jusqu'à vous?
Forcément, forcément, on est obligé déjà dans notre vie de tous les jours, et puis après on est impacté, que ce soit au niveau du prix des matières. Voilà, par exemple, les tomates, ça, cette année, elles s'arrêtent beaucoup plus tôt. Il y a plein de produits qui s'arrêtent beaucoup plus tôt. La mer se réchauffe, donc on a par exemple les Gambiero Rosso, il faut aller de plus en plus loin, elles sont de plus en plus petites, de plus en plus profondes. Il y a plein de choses comme ça, donc après il faut s'adapter, savoir être flexible. Je prends un exemple tout bête, mon fournisseur de beurre, voilà, il me dit, bah écoute, là on a eu des fortes sécheresses. Donc ça impacte l'herbe qui est moins riche en eau, du coup les vaches produisent moins de lait, il y a moins de beurre, et ben on en met moins, on s'adapte, il va falloir être flexible, c'est comme ça, ça a déjà commencé depuis plusieurs années, hein. C'est pas propre à cette année-là, hein. L'impact on le voit bien, il y a des produits qui commencent de plus en plus tôt, d'autres qui finissent de plus en plus tôt, enfin tout est déréglé, donc après voilà, on s'adapte et c'est les producteurs et les produits qui doivent nous dicter, enfin je prends mon avis personnel, ma carte en fait. C'est eux qui me disent qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire, et voilà. Si demain ils me proposent ça, bah top, allez, on met ça à la carte, quoi. Il faut avoir des cartes qui ne sont pas figées, en fait. Il faut savoir être flexible.
Emmanuel Pilon, merci beaucoup.
Avec plaisir.